Vous écoutez
RMC.
Il est 23h, Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là, c'est l'after bien sûr jusqu'à minuit avec l'OM au programme, l'OM qui a gagné à Monaco 3-2. Adam est là, bonsoir, au 32-16.
Bonsoir Gilbert, Florent, Daniel, comment ça va?
Ça va avec toi?
Ouais, ça va très bien, ça va très bien. Oh, c'est un kiff énorme que ça tourne comme ça. Moi j'ai deux points de mon côté, messieurs, si vous me permettez. Le premier, c'est sur l'émotion, du coup, sur le kiff énorme de la fin de match.
Et
le
d'ailleurs, fait que ça tourne enfin. Communion entre joueurs et supporters, t'as vu à la fin, là, hein?
Ouais, exceptionnel. Le haut d'arme, au tirage, là, incroyable. C'est un mini vélodrome, de toute façon. À chaque fois qu'il se dépasse à Monaco, on connaît l'histoire.
Ouais, c'est pas bien, Messi et Neymar qui ferait un truc pareil.
Non, pour le coup, ils y étaient tous, là. Ils y étaient vraiment tous. Non, c'est beau. Et ça fait vraiment plaisir que ça tourne de ton côté cette fois. On se rappelle de Strasbourg, on se rappelle bien sûr de Tottenham, comment ça se termine, enfin la fin de match horrible.
Ouais, c'est vrai, il y a eu une sorte de malédiction.
Il y a eu une série de dernières minutes. C'est pour ça que je disais, c'est une équipe qui est un peu sur l'émotion et qui parfois pourrait être. Bon, alors c'est kiffant l'émotion, mais quand ça tourne pas bien, tu l'entraînes de la gorge. Et si ça,
et ça a été condensé en très peu de temps,
un peu plus, ce sera encore mieux.
Exactement, et c'est-à-dire qu'en deux, trois semaines, ça a été condensé en vraiment très peu de temps, ce flot d'émotions négatives là, en fin de match. Donc cette fois que ça tourne de ton côté, c'est vraiment magnifique. 3-2, le retournement de situation, etc., c'est super. Maintenant, si on met un peu ça de côté et qu'on essaie d'analyser le match, moi j'avais appelé, il y avait encore 2-2, hein, pour être totalement transparent avec Adrien au standard. Mm-hmm. Pour moi, ça change pas l'analyse générale du match. Vous allez me dire si vous êtes d'accord, messieurs, mais quand il y a la compo qui tombe, on se dit déjà, c'est toujours la même chose. Toujours les mêmes problèmes qui sont pointés du doigt, et quand le match arrive, on se rend compte que c'est exactement les mêmes symptômes, c'est-à-dire Guendouzi trop, Veretout Rongier, une doublette qui est un peu trop neutre, Alexis Sanchez esselé devant. On se dit que c'est la même. Au final, la première mi-temps est bonne, et plutôt même très bonne. On comprend ce qu'ils veulent faire.
La première mi-temps est bonne. Et il y a des occasions qui sont vraiment violentes.
C'est toujours un paradoxe. Mais c'est pour ça que c'est paradoxal. C'est-à-dire que la première mi-temps est très bonne, et après t'entends les commentaires toujours derrière, tu sais, avec les stats moisies qu'on te sort du côté du diffuseur, ouais, ils ont pas marqué depuis 8 matchs en deuxième mi-temps, etc. T'es obligé d'y penser au final quand on se le rabâche.
C'est comme si tu dis, c'est comme ceux qui disent la différence entre frappe cadrée, pas frappe cadrée. L'occasion à la troisième ou quatrième minute, là, Nuno Tavares, là.
De Tavares.
Excuse-moi, ça me semble être une plus grosse occasion qu'une frappe cadrée. Hein.
Mais par contre, là tu me lances sur ça, Daniel. Un des gros problèmes, Gilbert, c'est qu'au final, il y a beaucoup de centres dans cette équipe, évidemment. Les apports de Klos et de Tavares sont énormes, mais qui est à la réception des centres dans la surface? C'est jamais Alexis Sanchez, hein. C'est toujours Rongier, Veretout, Guendouzi. Et ça, c'est pas normal. Il manque un mec devant pour finir l'action. C'est quand même évident, non?
Dont j'ai parlé dans les trois points. C'est que, je te rejoins quand même, là, pour une fois, parce que moi, j'ai beaucoup défendu Tudor sur plein de points, parce qu'il avait, il y avait des raisons de le faire. Mais c'est vrai que là, et y compris pour déstabiliser un peu tes adversaires, et puis aussi pour remettre tes joueurs dans ceux du banc en place, et puis tout simplement, comme tu l'as dit, pour des raisons tactiques, je pense qu'à un moment donné, il faut mettre des attaquants. Alors là, tu vois, j'ai pas inventé le fil à couper le beurre, mais quand même, Sanchez est un attaquant, mais il peut pas tout faire. D'une part, et deuxièmement, on pense qu'il serait un peu mieux en 9,5.
C'est plus un vrai 9.
Donc derrière, quand tu as remis, comme prévu d'ailleurs au passage, on l'avait dit cet été, parce que les bannis sont jamais bannis très longtemps dans les histoires, les qualités de char à une époque, le Dieng maintenant, tu as des attaquants, tu as des possibilités, je te rejoins. Et là, tu déstabiliserais plus tes adversaires en faisant ça, et puis tout simplement, tu profiterais de cette équipe totalement apathique qui a été Monaco en première pour profiter par exemple de la profondeur avec Dieng, ce qui n'a pas été le cas. Et effectivement, tu as des occasions, mais oui, elles sont. Alors, ça n'empêche pas d'être adroit, hein, même si t'es piston. Tavares est maladroit, mais à force, Harit est maladroit, Tavares est maladroit, Gigot super maladroit. Le meilleur attaquant, c'est Chancel Mbemba parfois.
Donc, voilà, exactement.
C'est un des meilleurs attaquants.
Gigot et Tavares, alors ça rentre pas dans les grosses occasions, c'est pas cadré, mais putain.
J'ai l'impression d'avoir.
Il y a pas un film qui s'appelait comme ça
sur la police, hein. Gigot, hein, et ça m'avait fait penser là. Gigot et Tavares, comme ça.
Gomez et Tavares. Gigot haricot, c'est autre chose chez les flics.
C'est les bœufs carottes.
Bœufs carottes ou Giro haricot?
Bœufs carottes, c'est la police.
Giro haricot, c'est chez ta belle-mère. C'est des bœufs carottes.
C'est pas trop le style. Mais
c'est les bœufs carottes. En gros, c'est la police des polices.
C'est choucroute, non?
On appelle aujourd'hui l'IGPN.
Giro haricot, ça se fait plus trop.
Ah, c'est bon, hein.
C'est une sorte de plat traditionnel du dimanche français.
Ouais, voilà.
C'est bon, ça,
Bah oui, le gigot c'est bon, mais les haricots c'est bon.
Pas qu'on mange ça.
Ça dépend les haricots, comment tu les prépares.
Le gigot, tu peux le manger à Pâques, mais il y a une.
Écoutez, Dizazi, très énervé à la fin du match, il a dit sur Prime, à partir du moment où l'OM a égalisé, l'arbitre était pour Marseille.
Pardon ?
Dizazi a dit.
Ah bon ?
À partir du moment où l'OM a égalisé, l'arbitre était pour Marseille.
Ah, mais il est à chaud, le mec.
Il est énervé.
Bon, je pense qu'il dit ça sur la faute qui amène le coup franc de Payet. Hein.
Bah, moi, faute, je suis d'accord que cette Payet. Faute, elle est un peu le coup franc, il est un peu généreux.
Oh, il va la chercher. Voilà. Après, il est tenu en haut avec le bras.
Ça fait partie du foot d'aller chercher un coup franc.
Mais non, mais bien sûr, évidemment.
Le contact est là et c'est très bien joué de sa part.
Et moi, je pense.
Par contre, Flo, je peux revenir sur ce que tu as dit au début de l'émission. S'il te plaît, Flo, tu disais que cette fois, il avait fait rentrer Payet tôt dans le match. Mais attention, c'est un changement contraint, Flo. Sinon, il lui fait rentrer 5 minutes à la fin, comme d'habitude.
Je suis d'accord. Moi, je te dis, je lui reproche.
Oui, mais c'est pas anodin qu'il gagne avec Payet sur le banc et qu'il tire le fameux coup franc.
Exactement. Le mec, il fait une différence énorme. Et juste sur ça, du coup, ça me permet d'ouvrir un point que je voulais évoquer sur Tudor quand même. C'est que normalement, les changements, ils sont faits pour apporter une plus-value dans une équipe. À chaque fois qu'il fait des changements, t'as l'impression que c'est encore pire. Bon, là, c'est pas le bon match, tu vas me donner raison, évidemment.
Excusez-moi, mais tirer la conclusion que sur ces 30 minutes, faut tout le temps mettre Payet parce qu'il apporte un peu. Claude vient de dire un truc important.
Non, je dis pas ça, Daniel.
Moi,
c'est
j'aime bien. Évidemment, je pense qu'il y a des moments où il aura peut-être dû jouer, il a pas joué. Mais comme a dit Flo, il a raison. Avant le dernier coup franc qui va rester dans les têtes de tout le monde, il y a eu des corners ou des ballons qu'il a super mal donné. Hein.
Bon, écoute, après, dernier, c'est toujours mieux que quand c'est Veretout qui tire les corners quand même. Hein.
Pardon.
C'est toujours mieux que quand c'est Veretout qui tire les corners, parce que je sais pas si vous avez remarqué, depuis plusieurs matchs, c'est Veretout qui les tire, hein, les coups de pied arrêtés. Je pense qu'avec Payet, c'est quand même légèrement mieux.
On se rejoint sur le fait que il devrait plus utiliser cette palette, que ce soit début de match ou fin de match, alors que t'as raison, c'était contraint. Pour revenir juste aux fautes, ce qui est très important quand même, c'est qu'il y a des tas de joueurs, ça fait aussi partie du haut niveau, de savoir ne pas faire des fautes dites inutiles. Et tu remarqueras que la faute qui amène le coup franc d'Alexis Sanchez, le premier but, c'est une faute totalement évitable. Et celle-là, même si elle est très légère, le fait d'aller toucher à ce moment-là Payet, qui évidemment va en rajouter, elle est aussi évitable. Et tu remarqueras que tu es souvent sanctionné maintenant sur ce genre de faute ou de corner que tu concèdes bêtement. C'est quand même aussi, ça fait partie de l'exigence du haut niveau.
Voilà, et j'ai Manu qui nous précise qu'au rugby, un match gigot-haricot, c'est un match qui ne compte pour rien.
D'accord.
C'est ça l'expression. Saison, tu vois, qui.
Apparemment, à Vincent.
C'est lui, apparemment, qui. C'est une expression à lui.
Voilà. À il y a Flan Mireille et gigot-haricot, alors chez Vincent.
C'est son terroir.
Voilà. Adam, un truc à rajouter ?
Oui, un truc à rajouter. Le gigot, s'il est végétarien, c'est mieux. Si c'est un gigot de soja, c'est-à-dire un gigot de blé, c'est mieux, voilà.
Ah ouais, d'accord, t'es sur cette. Chacun ses trucs.
Pardon,
son truc,
mais là, je vais pas te suivre, en revanche.
Ah ouais, tu valides pas. Écoute, c'est pour ta tendance.
Un gigot sans gluten.
C'est pour ta tendance.
Non, pour terminer. L'agneau, ça me plaît beaucoup plus.
Non. L'agneau, laisse-le vivant, laisse-le tranquille avec sa mère. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux comme ça.
Très bien.
Salut, Adam.
Non, pour terminer, messieurs. Ouais, merci, Gilbert. On est vraiment content que c'est tourné en faveur cette fois et content que ce soit avant la trêve comme ça aussi. C'est parfait. Ouais, merci, messieurs.
Salut, bonne soirée.
Oui, on embrasse Eve de notre part.
Il est vrai. Moi, une nouvelle fois, je reviens là-dessus, mais rappelez-vous, avant Tottenham, où on dit, oulala, Tottenham, Lyon, Monaco, ça peut être le truc horrible, la série de Marseille. Bah, au final, bon, deux victoires sur trois matchs.
Oui, parce que je vais te dire un truc, ça dépend à qui tu en parles. Pour le voir dans certains vestiaires, machin. Si t'as des gens qui n'aiment pas trop l'OM, ils fantasment un petit peu, tu vois, la semaine difficile qui arrive et qui s'approche pour l'OM. Tu vois, il y a certains qui pensaient, est-ce que tu crois que Tudor va tenir et tout. Bon, après, attention, faut raison garder. Moi, j'estime que, certes, sur le papier, ce sont deux gros matchs, mais Lyon et Monaco, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure sur Monaco, pour moi, sont deux équipes ultra décevantes de la première période, de la première partie. Donc, c'est pas le PSG, ils ont pas fait, tu vois, Lens. PSG et Lens. Ouais. C'est pas pareil. Ah non, pas pareil.
C'est des matchs qui sont le contexte.
Sous pression.
Le contexte.
Mais c'est pas pareil, Daniel.
Mettait l'OM véritablement sous pression en termes déjà de points.
Donc on regarde le jeu, le match. Ce que proposent les équipes. T'es d'accord que Lyon et Monaco, c'est pas les terreurs en ce moment, depuis le début de la saison.
Lyon, certainement pas. Mais dans le contexte actuel, la victoire de la semaine dernière était très importante et celle de ce soir l'est également. Il fallait se positionner au classement.
Dans le registre je dis ça, mais je précise juste quand même qu'il faut être mesuré parce que on est capable de faire des avis, moi le premier sur Lyon et Monaco en les critiquant. Ça relativise un peu, là je parle sur le fond. Après sur le contexte, t'as raison. Et encore sur les images et sur l'émotion dont vous parlez, l'image de Tudor, non seulement avec ses joueurs, mais avec Longoria et Ribalta à la fin du match sur le terrain aussi, tout ça effectivement montre
et l'OM a joué contre Lens en perdant, mais en faisant un match où dans le jeu ils les ont dominés. L'OM en championnat cette année n'a pas été n'a jamais été surclassé. Même le match contre le PSG, ils le perdent, ils sont pas surclassés. L'OM n'a été surclassé par personne, même en Ligue des Champions. Donc ils ont bouclé 15 matchs de championnat, 6 matchs de Ligue des Champions. À chaque fois.
Attention, Igor Tudor, écoutez sa voix.
Victoire, c'est vraiment un malchanceux juste voilà, avant la Coupe du
Monde. La traductrice, ça. Ah. Parce que c'est en italien. Daniel, tu veux t'amuser?
Bah, si elle parle à ma place, si je l'entends déjà.
Non, mais ça nous évitera de.
Il faut pas que je l'entends pas.
Là, c'est la traductrice qui traduit les propos en français de vers l'italien.
Susurre à l'oreille d'Igor.
Exactement. Pas tout à fait le même profil que le traducteur de Bielsa.
Il a bien de la chance.
Un profil différent. C'est vrai. Alors, on y va.
Una bella vittoria, cioè dopo una gara che era aperta, ecco, perché all'inizio potevamo fare i primi 15 minuti 2-3 gol, loro anche hanno avuto qualcosa, hanno avuto vantaggio. Alla fine siamo, ecco, come con la gente che è uscita da che è entrata da panchina che mi fa tanto piacere.
Et après, che on a riuscito a s'imposer in fin de match grâce aux joueurs che sono sur le banc e sono entrés, ça fait vraiment plaisir.
Fino alla fine, ecco.
Alors oui, c'est...
Voilà, bon, une réaction et il est content. Moi, j'aimerais
que. En fait, je devrais le laisser terminer parce que pendant que je traduis, il continue à parler et j'ai raté un ou deux mots.
Ah bon?
C'est que c'est pas facile la traduction. Ah non. Ça, parce que tu sais pas à quel moment tu dois intervenir.
Donc, ça fait un gros blanc à l'antenne si tu.
Et voilà, c'est pour ça que c'est pas ça.
On va faire une évaluation dans quelques instants, mais.
De la traduction de Daniel?
Quand on prend un peu de hauteur. Non.
8 sur 10.
Non, c'est sérieux, c'est pas des bonnes traductions. C'est pas lié au bout italien. Au pied carré. Quand on prend un peu de hauteur, l'OM 4e. Et éliminé de toute Coupe d'Europe, quand tu vois le statut du club, ce qu'il représente et tout, on peut considérer, si je prends juste ces données-là, que la première partie de saison est ratée. Et pourtant, là, ce soir, on reste sur une note positive quand même. Bah, 4e éliminé de toute Coupe d'Europe.
Mais tu peux pas dire ça. Mais non, tu peux pas dire.
Normalement, c'est le deuxième club français, Marseille.
Mais tu peux pas dire un truc aussi fort. Tu peux pas dire que c'est raté. Tu as un goût de travers dans la bouche à cause de cette dernière minute contre Tottenham. Mais. Il y a deux choses. Il y a le résultat brut où en championnat, t'es largement dans le coup pour finir là où tu dois finir.
C'est-à-dire deuxième?
Oui. Donc là, t'es largement dans le coup. Et la Coupe d'Europe où tu as ce regret infini de cette gestion de match terminée. Mais encore une fois, j'étais en train de le dire, je le redis. Il y a 15 matchs plus 6, 21 matchs depuis le début. L'OM, je ne vois pas un match où tu te dis ils sont totalement inférieurs à l'adversaire. Où ils se font balader, où ils souffrent. Et ils ont rencontré, comme équipe forte, on va dire sur le papier plus fort de le PSG, Tottenham. Ouais, y a ce match aller contre Francfort qui pue un peu, qui est un peu bizarre. Mais je pense que c'est l'OM qui se rate complètement dans l'approche. C'est pas Francfort qui a fait un match de dingo. Donc je trouve que c'est quand même très positif. Après, cette histoire de Coupe d'Europe où ils n'ont pas su gérer pour au moins accrocher l'Europa League, ouais, moi je pense que s'ils l'accrochent l'Europa League, je parle d'un début de saison parfait quasi.
Oublie pas qu'ils ont perdu à la maison contre Lens.
Mais le match contre Lens, ils sont au-dessus de Lens, c'est un braquage.
Ils ont perdu à la maison contre Ajaccio.
Mais c'est un accident, enfin, c'est pas du contenu. Dans le contenu, ils n'ont jamais été surclassés. Dans le contenu, ils ont toujours été très bons. Je vois pas de. Je te dis, il y a cette dernière minute contre les Spurs qui jette un voile sur ces 21 matchs et cette première partie de saison. Non, je et encore cette gestion à la fin, c'est juste plutôt de tenir le 1 partout pour accrocher l'Europa League. C'est ça qui a complètement foiré. Mais c'est pas du jeu, c'est pas le jeu ça. Dans le jeu, je vois pas à quel moment ils ont été mis en souffrance où on a pu dire ils ont pas été bons et tout. Et pourtant, pendant les 21 matchs, à chaque fois on a répété des choses. Qui reste juste, hein, que peut-être qu'avec un 9 et Sanchez à côté, ça irait mieux. Je sais pas pourquoi Tudor le fait pas après tout. Peut-être il se dit, mais regardez, dans le jeu, on a toujours été très bons. Alors on pourrait lui rétorquer, bah oui, mais peut-être que tu serais encore un peu meilleur si t'avais un 9 et Sanchez, mais peut-être qu'il a besoin d'équilibrer son milieu de terrain parce que techniquement.
Non, mais je pense que
parce que techniquement, ils sont pas tous très forts, les joueurs de l'OM.
Non, mais je pense
donc
qu'il
il compense par une grosse activité physique au milieu. C'est peut-être pour ça qu'il a besoin de ce Guendouzi qu'on dit dans la ligne du haut, mais qui en fait est toujours au milieu de terrain. Donc c'est un choix, j'imagine qu'il doit, non, il doit faire une balance pas, de tout ça. Quoi.
Il n'a pas une confiance infinie, et on le comprend, hein, dans son effectif. C'est-à-dire qu'il en est arrivé à la conclusion au bout de 10 journées et que, en gros, ayant vu Luis Suarez, n'ayant pas encore intégré Bamba Dieng, il s'est dit, bon, en gros, j'ai pas vraiment d'attaquant. Il est parti sur cette idée-là. Donc, c'est, et fort de ça, il s'est dit, bon, ben, moi, par contre, j'ai des certitudes par ailleurs, donc, on va continuer avec ça et avec une sorte d'équipe type. Sauf qu'aujourd'hui, ce fonctionnement-là à la Giroud, tu sais, où tu joues avec les 11 mêmes mecs ou quasiment tout le temps, c'est plus possible. Parce que tu demandes tellement d'intensité, tellement de, et lui encore plus d'ailleurs dans son style, tellement de course que tu dois tourner. Et c'est là où, dans son côté rigide, justement, et il l'a reconnu lui-même, c'est fort à ce moment quand même où en conf il dit, j'aurais dû faire rentrer Payet. Je pense que là, il a lâché un peu de lest, y compris dans le management et dans la com. Parce que là, il était en danger, il était vraiment pas bien, et que voilà, il a dû y penser aussi lui toute la nuit en se disant là quand même, à un moment donné, une équipe, c'est un groupe, c'est le banc. Payet, c'est Payet quand même s'il peut pas jouer une heure et demie, et donc je dois faire différemment. Mais néanmoins, on peut pas lui donner tort sur le fait qu'il est limité après. Moi, c'est juste que même avec ses limites, sur 30 minutes ou sur des débuts de match ou pour surprendre l'adversaire, tu dois faire un peu plus différent, être un peu plus créatif. C'est le reproche que je ferais, c'est qu'il n'est pas ultra créatif, toi. Il n'est pas, tu sens le gars très costaud, clair, carré, rigide, mais parfois un peu trop.
Reda est là au 32-16. Reda, bonsoir.
Bonsoir à vous. Bonsoir à tout le monde. Daniel, bonsoir. Flo, Gilbert.
Reda, avant qu'on rentre dans les détails du match, toi, tu considères que là, après 15 journées, et donc la première partie de saison est réussie ou pas?
Moi, à l'image de Daniel, je trouve qu'on est souvent dur avec l'OM. Parce que dans le contenu, moi, je vois plein de bonnes choses. Après, il nous manque ce petit truc. Je veux dire, si on gagne contre Ajaccio et ne serait-ce contre Strasbourg, le dernier but qu'on prend à la dernière minute, on n'en est pas dans la même façon la saison, quoi. Parce qu'on serait quasiment deuxième. Et là, on dirait que c'est une très bonne saison. Après, en Ligue des Champions, je pense concrètement qu'on n'a pas le niveau. Tout simplement, dans le niveau Europa League. Mais, comme l'a dit Daniel, à part le match de Francfort à l'aller, je ne vois pas qui nous a marché dessus, quoi. Personne, quoi. Et j'ai vu beaucoup de matchs au stade. Le match de Lens, pour moi, c'est un hold-up. Parce que je ne sais même pas comment Lens a gagné. Mais voilà, après, ça fait partie du foot. Il y a des matchs où l'année dernière, on a gagné comme ça, alors qu'on ne méritait pas. Mais cette année, mis à part Ajaccio à la maison, où c'est un accident, je ne vois pas où l'OM s'est loupé dans le jeu, du moins. Après, si on a la ligne au niveau comptable, effectivement, on mériterait d'avoir un peu plus de points, mais bon, c'est comme ça, c'est le foot.
Non, mais cela dit, quand même, il faudra se poser les bonnes questions et dans l'élargissement un peu du groupe, ou voir dans le recrutement si jamais il y a une affaire ou quelque chose à faire.
Bien
parce
sûr.
Parce que tu as montré tes limites en Ligue des Champions, c'est pas un hasard, c'est parce que c'est la Ligue des Champions. Là, on bien parle sûr. D'équipe, oui, tu bats Monaco et Lyon, mais moi, je dis attention, bémol. Monaco et Lyon ne sont pas les terreurs qu'on a annoncées au début du championnat. Donc, même pour aller chercher la deuxième place, alors qu'il y a des équipes qui, elles, mettent en voie du jeu, et il va falloir peut-être quand même arriver à trouver une solution à ça. Parce que tu ne gagneras pas toujours des matchs comme ce soir. Tu n'auras pas toujours forcément, peut-être même, je dirais, à Monaco aussi peu ambitieux. Alors que tu as gâché 5 ou 6 occasions en première période. Okay. Non. Normalement, pour moi, le match... Quand j'ai vu Volant marquer, je dis bon bah c'est bon, ils ont gâché leur truc en première période, tu vois c'est mort. Bon ils ont gagné, tant mieux, mais ça va pas se reproduire beaucoup ça.
Mais à l'inverse, on n'en perdra pas beaucoup comme à Strasbourg.
Pardon.
Tu vois où on se rejoint à la dernière minute, il y a quelques matchs où on s'était rejoint à la dernière minute où on ne les perdrait pas ces matchs, tu vois.
Ouais.
Et là, ça s'équilibre un petit peu, on va dire. Là, ça tourne en notre faveur. Mais après, pour revenir sur le cas Payet, par exemple, je pense que Tudor, il est pas bête. S'il voit un Payet à l'entraînement affûté, qui fait des misères à tout le monde, il le ferait jouer. Je pense que s'il n'était pas le joueur.
Moi, je pense aussi.
Voilà, je veux dire, il est avec les joueurs, il n'est pas plus bête que l'autre. Je veux dire, si à un moment donné, il estime qu'il y a un joueur qui peut rentrer dans le cadre de son jeu et qui peut améliorer l'équipe, il aurait pu jouer. Luis Suarez, il n'est pas exceptionnel, mais franchement, je trouve. Voilà, il a des qualités de vitesse, mais bon, Bamba Dieng, c'est à peu près la même chose.
Luis Suarez, je pense qu'on n'est pas loin de la banane.
Ouais, c'est ça.
Moi, je suis d'accord avec toi, Daniel.
Mais ah toi, bah c'est, oui, c'est Luis Enrique le retour, lui.
Ouais, mais sur Payet, c'est un peu
disant. Luis Enrique, tu veux Mbappé Ignan?
Voilà.
Je pense que lui aussi, c'était une banane.
Bah oui. Et de la Fuente.
On est pas loin de la banane aussi.
Après, la Fuente, c'est pas cher.
J'allais dire.
Ouais. Peut-être la saucisse
même. C'est un pari, on va dire. C'est pas une grosse somme d'argent. Ou ça reste quand même 12 millions, je crois, un truc comme ça. Je veux dire, au niveau des finances de l'OM, c'est quand même un recrutement important. Et pour moi, c'est banane. Je pense
juste un truc sur Payet. La différence, c'est là où tu dors. Quand je dis qu'il doit lâcher un peu de lest, qu'il doit... Il y a parfois tout n'est pas rationnel. Ok, Payet à l'entraînement, il voit, t'as raison, tout à fait raison, qu'il n'est pas suffisamment prêt, peut-être. Après, je pense que les joueurs eux-mêmes, quand ils voient Payet entrer et qu'ils se disent galette possible pour aller mettre des coups de tête avec Mbemba, Gigot, Kolasinac comme ce soir, notamment. Tu vois, je pense que quand t'es joueur, t'aimes des fois aussi bien avoir un mec qui te donne des passes et des ballons.
L'idée quand tu joues au foot, c'est pas d'aller marquer à la dernière seconde sur un coup franc de Payet.
Pas que, des passes, sur 20-30 minutes. Tu vois, ce que je vais te dire, c'est de jouer un peu avec des mecs qui ont du ballon. Je pense pas que les joueurs qui jouent devant, notamment, se disent pas avec plaisir, putain, c'est cool, il fait rentrer Payet, on va avoir des ballons.
Non, par contre, pour moi, Flo, pour être concret, la grosse erreur de ce début d'année, là, c'est Milik pour moi. Je pense qu'on l'a vendu trop vite avec des mecs comme Claude.
Là, t'as ton neuf, hein.
Voilà, avec des mecs comme Claude.
Il a encore marqué ce soir avec la Juve.
Oui, hein, puis mieux, et mieux sans doute dans le système tel qu'il est, enfin, là, maintenant, que l'an dernier avec Sampaoli.
Exactement. Là, pour moi, c'est
tu veux dire Milik avec devant Sanchez, ça aurait pu faire
exactement,
mal.
Exactement, qui tourne autour, avec les centres de Klose, Tavares, etc. Je pense qu'il aurait pu faire mal.
Les centres de Tavares, c'est là, attention, petit point Tavares. Il y aura aussi un petit point Balerdi, parce que j'ai beau essayer de le défendre parfois, je reconnais qu'il est quand même souvent dans les mauvais coups, le bougre. Donc Balerdi, c'est compliqué. Là, j'avoue que ça devient difficile, là, parce qu'il y a les mecs qui sont toujours au mauvais endroit, au mauvais moment.
Moi, je le trouve plus souvent bon que pas bon.
Ouais, là, ça devient la balance commence furieusement à s'équilibrer. Il est dans les mauvais coups.
Oui.
Toujours. Il y a Peno, il y est. Il y a un balle contré, il y est. Il y a machin, il y est. Et bon, et Tavares, c'est aussi insuffisant, tu vois, l'occasion du début.
Ah, l'occasion du début, franchement.
Franchement, c'est pas possible.
Ce qu'il fait avec ses pieds, quoi.
Il y a ce truc-là, Daniel, je trouve que Tavares, en début d'année, nous a rapporté quelques points. Et c'est vite essoufflé, en fait.
Oui, non, mais d'accord, mais le truc, c'est que le gars, ouais, il mange sur deux buts au mois d'août, quoi.
Oui, non, voilà, mais c'est
pour ça à un moment, il n'y a plus rien sur la table, hein. On a débarrassé la table, hein.
Et pendant la Coupe du Monde au Qatar, il n'y a pas atelier contrôle, atelier reprise de volée.
Parce qu'à l'arrivée, les centres, il n'en fait plus. Les fameuses chevauchées, elles s'arrêtent à 30 mètres du but.
Il
est plus souvent pénible qu'autre chose.
On est d'accord sur ce point.
Évaluation rapide. Là, on a parlé de quelques joueurs. Est-ce qu'il y a un joueur Vas-y, Tolier, c'est qui?
Veretout.
Ah mais arrête tout, il va finir titulaire avec Deschamps, hein, vous allez voir.
Non mais tout c'est un bon choix, c'est pas le problème. Qu'on se demande pourquoi il est en équipe de France, on a le droit de se demander, mais que ce soit un bon joueur pour l'OM, c'est un bon joueur. En plus ces dernières semaines, je le trouvais moins bien. Là il est bien, il met un but très important, c'est un taulier de l'OM, il n'y a aucun problème. Après en taulier, t'as aussi Alexis Sanchez.
Exactement.
Et Alexis Sanchez qui met un coup franc comme ça, moi en mémoire, j'avais pas trop, je suis pas sûr que dans les clubs où il était, c'était lui qui les frappait.
Thierry Henry a dit, il a une bonne mémoire en général pour ça, qu'il avait déjà marqué comme ça en Angleterre.
Avec Arsenal
Qu'il y a longtemps, mais qu'il s'en souvient.
Ouais, c'est possible, mais
on peut lui faire confiance.
C'est pas un grand spécialiste de ça, et il l'a tiré comme un grand spécialiste de l'exercice. Et franchement, super coup franc, lucarne, vraiment absolument magnifique. Il obtient le coup franc, il se relève, il place le ballon, lucarne, parfait.
Et juste au passage sur la stat de la première période, c'était le seul tir cadré. Ils en ont eu 9. Il y avait largement de quoi.
Oui, non, mais c'est pareil. C'est comme on disait tout à l'heure. Ouais. Frappe cadrée ou pas, ça veut rien dire. La frappe de Gigot et la frappe de Tavares.
Oui, mais d'accord.
Gigot, c'est plus gros en nos casques qu'une frappe cadrée.
Ouais, mais quand même, quand on met 8 à côté sur les 9, à un moment donné.
À côté, c'est sûr que t'es maladroit. Ça, c'est sûr qu'ils sont maladroits. Ouais. Mais ça n'empêche pas que l'OM a été très dangereux dans la première période.
Il se crée des occasions.
Il y a aussi, je trouve, Paul Lopez, il est mieux cette année aussi. Je pense que le fait que Mandanda soit plus là, ça l'a libéré.
Oui, clairement, il a pris de l'ampleur. Paul Lopez, je suis d'accord avec toi. Je pense que
il était fébrile, je trouve.
Ouais, enfin en tout cas, il fait quasiment plus d'erreurs et puis il est décisif. Non, c'est vrai.
Merci Reda.
De rien, passez une bonne soirée.
Bonne soirée, à très vite. Bon, et puis alors Klose a été un peu attendu, hein, après la déception de la non-sélection. Bon,
en tout cas, il est très bien rentré dans le match, hein. S'il y avait de la déception, il s'est pas trop vu parce qu'il a fait un début très bon.
Et puis j'aimerais quand même le petit mot habituel sur Balerdi. Alors vous avez vu qu'à la fin il a énervé tous les monégasques. Il a dû avoir des insultes, sans doute. Vous l'avez trouvé comment?
Il n'était pas mauvais, mais juste correct en première période. Mais je reconnais parce que moi, je trouve que je l'ai vu l'an dernier quand il jouait très peu contre Karabag. J'avais dit à Flo Germain à Marseille, j'ai dit écoute, moi je ne le trouve pas mauvais ce joueur. Je comprends pourquoi il est à l'OM parce que je trouve, comme disait Daniel, je l'ai plutôt moi défendu, mais quand t'es si souvent dans les mauvais coups, pénaux, dans les problèmes défensifs que rencontre l'OM, il y a quand même aussi des raisons. Et puis aussi sur cette nervosité, sur cette, je pense que lui-même, comme il sait qu'il est un peu contesté, et je ne sais pas si ça commence pas à devenir un cercle vicieux, c'est quand même pas, on peut pas parler d'un point fort de l'OM, hein, malheureusement. C'est peut-être pas le point faible qu'on veut bien dire parfois, mais c'est pas un point fort de l'OM. Hein.
Voilà pour Marseille. On va parler de Monaco dans quelques instants avec vous tous, bien sûr, et ensuite les autres résultats du jour. La Ligue 1 est au programme dans l'after jusqu'à minuit. Puis on durera un petit peu de la Coupe du Monde quand même. C'est dans une semaine maintenant. Dans une semaine pile, nous serons au Qatar, parce que je rappelle qu'RMC est radio officielle de la Coupe du Monde. Tous les matchs sur RMC pendant la Coupe du Monde, match évidemment de poule, match phase finale, tous les matchs seront sur RMC. Antenne spéciale pendant toute la Coupe du Monde à partir de 15h avec les matchs même précédents, avec les matchs de 13h. Vous savez qui seront là. Et puis, petit bonus, enfin, deux bonus, l'after jusqu'à 1h du matin pendant la Coupe du Monde à partir de dimanche soir, avec la possibilité pour vous tous qui nous écoutez, les afteriens, de venir participer à l'after en studio ici à Paris. Vous envoyez d'ailleurs votre candidature.
Mais nous, on sera pas là.
Ah non, on sera au Qatar. Mais ici, il y aura Nico Villas, Thibaut Gingrand, ils seront tous là. Donc si vous voulez venir en studio de minuit à 1h pendant la Coupe du Monde, vous envoyez.
Comment ils vont être sélectionnés?
Vous envoyez un petit mot à l'adresse mail suivante. Venir. Daniel, laisse-moi finir. standard@rmc.fr. Et là, c'est Max et Adrien qui récupèrent les candidatures. Bah, évidemment, tu crois qu'on fait quoi? Tu crois qu'on dort ou quoi?
Non, mais j'aime bien. Très bien.
Donc, ça, c'est la nouveauté de la Coupe du Monde. L'after jusqu'à 1h du matin systématiquement. Et puis, également, pendant la Coupe du Monde, RMC lance une radio digitale 24-24. Donc, sur l'appli RMC Sport ou l'appli RMC, vous aurez le choix entre la radio classique RMC ou une radio 100% Coupe du Monde avec des programmes dédiés, avec des rediffs, avec des débats que vous n'aurez pas sur RMC. Donc voilà, toute la Coupe du Monde sera sur RMC plus que jamais à partir de ce week-end.